France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Candidat face au 7-9.
Et c'est donc la première matinale spéciale présidentielle que vous propose France Inter. Le 7-9 reçoit les différents candidats pour une émission panoramique. Projet pour la France, dialogue avec les auditeurs, écologie, économie, politique, relations internationales.
Et c'est vous, Jean-Luc Mélenchon, qui l'inaugurez. Merci d'être là. Bonjour, bonne année à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous serez comme les autres candidats interrogés jusqu'à 9h30 par les éditorialistes de la matinale. Dominique Seux pour l'économie, Thomas Legrand pour la politique, Pierre Aski pour l'international et sur l'écologie, la spécialiste de France Inter, Sandy Dauphin. Enfin, à la toute fin, il y aura la petite question Trapenard, la question d'Augustin Trapenard.
Et tout ça, ce sera après 9h donc et après votre dialogue avec les auditeurs. Vous avez la parole, je vous le disais, appelez-nous, le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Vous pourrez dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon d'ici 20 minutes. Et d'ici là, avec Léa, quelques questions, Jean-Luc Mélenchon, à la fois sur vous, sur votre campagne, sur le projet que vous portez. C'est votre troisième campagne présidentielle. Votre première candidature était en 2012. Depuis, les grands partis politiques ont été ébranlés, le rythme de la vie politique s'est accéléré, les réseaux sociaux ont explosé, les chaînes d'information en continuent aussi. La politique, pour le dire d'une phrase, se fait aujourd'hui différemment. Est-ce que vous aimez ce monde-là, ce monde de 2022, Jean-Luc Mélenchon, ou pensez-vous tout simplement que c'était mieux avant ?
Non, je l'aime beaucoup. Avant, c'était pas mieux, j'y étais. Et même avant, j'y étais aussi, et c'était pas mieux non plus. Par contre, la liberté qu'offrent les réseaux sociaux avec leurs inconvénients, les réseaux sociaux ont un inconvénient, l'information officielle aussi, donne une très grande liberté. De même, nous avons de nouveaux outils techniques. Nous sommes en campagne depuis un an. Ça a un peu changé d'ailleurs la forme de la campagne, parce qu'il a fallu vérifier que certains outils techniques étaient au point. Parce que ça s'expérimente comme des objets complexes, par exemple créer une application téléphonique qui permet d'être en contact avec tous les activistes de la campagne, c'est une machine, c'est immatériel, mais c'est une machine, faut vérifier que ça marche. Les meetings en réalité augmentés, le 16 janvier nous allons faire un meeting qui va avoir des qualités techniques complètement différentes du passé.
C'est-à-dire lesquelles?
Vous avez déjà été l'homme de l'hologramme.
Oui, mais je vais recommencer l'hologramme, ce sera la semaine du 26, que je dise pas de bêtises, ils vont me tuer dans mon état-major si je me trompe de jour. Mais quand on va entrer dans la période de l'égalité...
Donc on va retrouver l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon le 26 janvier,
oui,
c'est ça?
Oui, ça sera sans doute dans 6 ou 7 villes en même temps, de manière à pouvoir avoir le plus grand... En fait, l'hologramme est à la fois un gadget technique, mais en même temps une machine à produire du rassemblement dans des conditions un peu plus intéressante que d'habitude. Alors le 16 il y aura ça, le 20 mars nous ferons une marche, parce que quand je fais des campagnes présidentielles, on organise une marche dans la rue, il y en aura donc une le 20 mars.
Ou à Paris ?
Oui, à Paris, parce qu'hélas le 18 qui est le jour un peu anniversaire pour nous, c'est pas un samedi, alors ça tombera donc le 20. Alors oui, c'est plus intéressant aujourd'hui, après il y a plein de méthodes de travail, si vous voulez, moi sans les réseaux sociaux... Je collecte pas 1 million d'euros comme nous l'avons fait depuis le mois d'octobre. Sans les réseaux sociaux, on constitue pas la grande armada qu'on a constituée pendant toute l'année de 260 000 personnes qui sont en lien avec la campagne. Donc voilà.
Oui,
c'est plus intéressant.
Les réseaux sociaux, c'est aussi un climat. Ça crée un certain climat, fait de buzz, de clash, de polémiques à répétition. Dans ce contexte, quel président de la République devez-vous être ? Faut-il être au-dessus de la mêlée ou dans les tranchées ? Serez-vous un général sur le champ de bataille ou une figure qui apaise et qui rassemble, Jean-Luc Mélenchon ?
Moi, je pense que mon but, c'est de restaurer une ambiance de liberté. Vous ne vous en rendez pas compte, peut-être du fait de votre âge, mais petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, le champ des libertés s'est réduit. Avec la lutte contre le terrorisme, ensuite ça a été, ce qui a été très bien décrit par tout à l'heure Thomas Legrand, c'est vrai. À partir des années 80, les contrôles d'identité sont devenus systématiques, puis ensuite ça a été en tout lieu, puis, et on en est aujourd'hui à pour aller boire un coup au restaurant ou au bistrot du coin, il faut montrer son passe sanitaire et montrer sa carte d'identité au bistrotier. Bon.
Y a une épidémie et parce qu'il y a 200 000 contaminations par jour.
Oui, attendez, ça c'est un autre sujet de savoir si c'est adapté de contrôler les identités pour empêcher l'Omicron de circuler. Mais restons sur l'ambiance dans laquelle nous vivons. Nous avons donc besoin de respiration et de liberté. Voilà. Donc le président de la République n'a pas à se mêler de tout, sur tous les sujets, et surtout de dicter des comportements aux gens. La liberté doit être la règle de vie d'une société démocratique. Donc moi, je ne suis pas la personne qui veut se mêler de tout. Mais sur un certain nombre de sujets, il faut garder le travail pour lequel vous êtes nommé. Par exemple, tout à l'heure, monsieur Aski s'exprime sur le Mali. J'aurais aimé qu'on puisse en parler. Je ne sais pas si vous m'en
parlez. Oui, on va en parler, on va parler sur l'international.
Mais parce que ça, c'est directement la compétence du président de la République. Il faut déjà faire son boulot. Deuxièmement, vous avez des grands sujets sur la politique internationale, sur, par exemple, un sujet qui est vital pour notre pays, son système de défense pour protéger ses frontières. C'est la question de la dissuasion nucléaire et des autres outils dont nous disposons. Ou bien des grandes questions comme comment va-t-on faire pour rester au niveau qui est le nôtre. Nous sommes le troisième port spatial du monde et l'avenir du monde est en train de se diriger par là. Bref, sur les grands sujets, faut être là et connaître les sujets techniquement. Après le reste, la Constitution prévoit, article 20, que le Premier ministre dirige la politique de la nation. Bon, conduit et dirige la politique de la nation. Je pense que dans ma vision de l'application de la Ve République, ces deux rôles seront respectés tels qu'ils doivent être. L'un en surplomb, en charge plus directement du temps long, et l'autre dans l'immédiat et le temps court.
Jusqu'à ce que vous changez la République.
Absolument.
Voilà. Et la Constitution.
Mais il est normal que je vous réponde à ce qui se passerait dans l'intervalle, parce qu'on m'a posé la question et je la trouve légitime. Mm-hmm. Au début, on n'y avait pas pensé. On se disait, bon, comment on va changer tout ça?
L'intervalle qui est de 2 ans, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qui ne le savent pas, qu'en gros, si vous arrivez au pouvoir dans 4 mois, pendant 2 ans, vous appelez à une constituante, à un parlement qui va écrire une nouvelle constitution, qui sera donnée au référendum, et si elle est adoptée, on passe à la 6e République.
Exactement. Et je crois que, pardon, si vous me permettez un mot sur cette ambiance, parce que nous vivons dans une ambiance particulière, le processus constituant va être refondateur pour la France. Parce que la France, elle est comme ça, elle a beaucoup changé, énormément changé depuis 1958 et les différentes modifications de la Ve République. Par conséquent, en fondant une nouvelle constitution, vous savez comme moi qu'on commence par rappeler les droits qui sont au début, eh bien les Français, en quelque sorte, vont se réidentifier collectivement. Qu'est-ce que nous reconnaissons comme droits les uns vis-à-vis des autres? Et ça me paraît fondateur pour ce moment compliqué de notre pays qui va à tâtons, un peu dans l'obscurité. Un coup, c'est une polémique à mort sur la laïcité. Le lendemain, c'est sur le vaccin ou pas. Enfin, on a l'impression que tout arrive en tension parce qu'on ne sait pas quels sont les principes auxquels nous nous référons tous.
Quel principe vous semble manquer précisément aujourd'hui dans la Constitution? Vous dites il faudra qu'on fasse la revue des droits. Vous avez parlé de la laïcité, mais est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui vous semble cruellement manqué et qu'il faudrait inscrire dans cette 6e République que vous appelez de vos voeux?
Oui, d'abord, il y a des droits, si vous voulez, qui correspondent à l'époque moderne et à la demande des citoyens, qu'on peut constater. Le droit à un référendum d'initiative citoyen. Les gens ont le droit de participer à la vie de leur pays en proposant, en prenant l'initiative de certaines lois. Le référendum révocatoire qui d'un coup réglerait des dizaines de problèmes et empêcherait que, pour la mauvaise renommée de l'an, tout le monde paye. Autrement dit, les citoyens pourraient demander la révocation d'un élu, moyennant certaines conditions, mais que ce soit le président de la République ou le conseiller municipal du coin. Je pense que ça sont des aspects qui tiennent au fonctionnement des institutions. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Je voudrais que les libertés fondamentales de la personne humaine soient réinscrites dans la Constitution. Par exemple, l'IVG. Qu'on arrête de rediscuter de ce sujet à chaque élection. Parce que ça n'en vaut pas. Ou bien on reconnaît la pleine propriété de leur corps par les femmes, ou bien on pense que c'est une notion aléatoire. Ça, c'est un exemple. Le deuxième, c'est le droit de mourir dans la dignité. Et le troisième, c'est la liberté du genre. Les libertés fondamentales de la personne humaine doivent être dans la... Mais ça nécessite
qu'on
en discute.
C'est dans la Constitution que vous voulez mettre les libertés de genre ou l'IVG. Vous pensez que notre texte fondamental doit aller dans ce degré de précision-là?
Oui, parce que la Déclaration des droits de l'homme va dans des précisions aussi qui sont grandes. Quand on vous dit que les êtres humains naissent libres et égaux en droit, c'est quand même assez précis. Ça veut dire l'ensemble des droits. Et puis, ça nous permettrait d'avoir des débats philosophiques qu'on n'aura pas ce matin. Mais par exemple, le président de la République dit l'autre soir les droits viennent avant les devoirs. Les devoirs viennent avant les droits. Je répète, les devoirs viennent avant les droits. Personne n'a fait attention. Mais philosophiquement, c'est quelque chose de terrible. Parce que, d'abord, c'est très lié politiquement aux périodes de réaction dans notre pays. Et deuxièmement, je ne peux pas accepter une définition pareille, parce que à la fin, on en connaît le résultat. Si vous fumez, vous n'avez pas respecté votre devoir, alors vous n'avez pas le droit d'être soigné, et ainsi de suite. Je sais que là, je force un peu le trait, mais c'est pour montrer le rapport qu'il y a entre une grande idée et une conséquence pratique très immédiate. On a entendu il y a deux jours quelqu'un dire que ceux qui ne sont pas vaccinés, on pouvait se poser la question de savoir s'ils doivent être réanimés. Eh bien, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté leurs devoirs. Donc, ils n'ont pas de droit d'être, d'avoir les droits
à
la médecine.
On va y venir au vaccin et à la situation sanitaire. Puisqu'on est dans le panorama, le général, dans la philosophie de ce que doit être votre présidence, en tout cas que vous le souhaitez. Une question encore sur les institutions. Le sujet est apparu ces dernières semaines avec Éric Zemmour, notamment, qui a dit à plusieurs reprises que ce ne serait plus au Conseil constitutionnel de faire la loi, que le Conseil constitutionnel devrait se plier à la volonté politique. Est-ce qu'il a raison? Le Conseil constitutionnel ferait de la politique? Vous le pensez aussi?
Oui, bien sûr, mais je pense que sa manière de voir les choses ne nous met pas à l'abri d'un des risques qu'on connaît tous. C'est-à-dire que si on part de l'idée, en gros c'était la formule, bon tout le monde a oublié, mais en 1981, l'un des socialistes, et non le moindre, avait dit « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Bon, alors on comprend cette formule. Elle a eu son heure de gloire, c'est ce que veut le peuple par-dessus tout, etc. Mais la déclaration des droits fondamentaux qui nous lie, quel que soit le régime, quelle que soit la loi, ne peut pas être mise de côté en disant « bon, on verra, on interprétera au fur et à mesure ». C'est pourquoi, quoique pour ma part, j'ai jamais été très favorable à l'intervention des juges, des magistrats dans la définition de la loi. Cependant, s'agissant de la Constitution, c'est-à-dire au bout du compte de la préservation des droits fondamentaux, qu'il y ait une autorité qui est au-dessus et qui dit « bon, attendez, là non, ça va pas du tout, ce que vous venez d'inventer est absolument contradictoire », je pense que ce serait très malsain de s'en priver de cette forme d'aide politique qui est donnée
donc
à la société.
Donc on garde le Conseil constitutionnel.
Non, ça c'est la constituante qui le décidera. Ah. Moi je vous donne mon avis, Jean-Luc Mélenchon. La constituante, elle dira, il y en a, il y en a pas, j'en veux, j'en veux pas. Et les positions de M. Zemmour seront sans doute discutées dans la constituante.
Alors venons-en à ces quelques questions sanitaires. On est à plus d'un million de nouvelles contaminations en une semaine avec ce nouveau variant Omicron. Jean-Luc Mélenchon, vous seriez président aujourd'hui face à ces chiffres-là, que feriez-vous? Je dis bien aujourd'hui même dans l'urgence. Vous prendriez quelle décision? Vous avez critiqué le pass sanitaire, mais là, face à l'épidémie, il faut bien faire quelque chose.
Bien sûr, oui. Alors d'abord, je commence par dire une chose, parce que tout à l'heure, Madame Salamé, hélas, vous avez oublié de préciser que si nous ne respectons pas les jauges qui sont proposées pour les spectacles publics, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel qui dit qu'il ne peut pas y avoir de jauge pour les réunions politiques et électorales.
Là, vous parlez à ma question à Olivier Véran sur la question des jauges, qui vous a accusé, vous, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui n'allait pas mettre de jauge dans vos meetings, d'être irresponsable.
Oui, je pense qu'il n'aurait pas fait la même remarque stupide si vous aviez précisé que nous allons distribuer des masques FFP2 aux gens qui participent à notre meeting. Un masque FFP2, c'est ce que j'ai actuellement sur le nez. Ça diminue en une heure de présence, si vous étiez malade, Madame Salamé, que vous n'ayez pas de masque. Eh bien, ça diminue et ça le risque de contagion, et ça l'amène en dessous de 1%. Alors que le masque que vous avez, en ce moment même sur la figure...
Il n'est pas un FFP2,
non, chirurgical.
Voilà, le masque chirurgical... donne une contamination beaucoup plus grande dès le premier quart d'heure. Par conséquent, nous prenons des dispositions pour que les gens soient protégés. Et j'espère qu'ils seront nombreux à venir le 16 janvier à ce meeting à Nantes, parce qu'on ne fait pas de campagne électorale sans campagne, si vous voulez.
Mais vous n'avez pas répondu à la question de Nicolas Demorand. Si vous étiez président tout de suite, qu'il y a Olivier Véran, puisque vous l'avez entendu, a dit qu'il y avait quasiment 1,5 million de contaminations jour en ce moment, vous faites quoi?
Simplement. Ben bien sûr, concrètement, immédiatement et là tout de suite.
Si vous êtes président, il faudra le faire.
Non.
Ben oui, il n'y a pas que le long terme si vous êtes président.
Non, si justement, quand on préside, on s'occupe du long terme. On n'improvise pas continuellement.
Oui, mais quand vous êtes face à une épidémie.
Je vais répondre maintenant, Madame Salamé. J'ai compris que c'était tout de suite, maintenant, concrètement. Ça y est, vous pouvez recommencer encore deux ou trois fois. Mais
j'ai compris
la question. Mais laissez-moi vous amenez le sujet comme moi je le pense, pour que vous compreniez ma manière de penser. Premièrement, contre Omicron, vous ne pouvez rien, à part les gestes barrières. Depuis maintenant plus d'un an, j'explique que nous vivrons dans une société de la pandémie permanente. Aujourd'hui, c'est Omicron. A-t-on redit qu'on a tué 600 000 volailles dans ce pays parce qu'il y a la grippe aviaire? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aucune des causes des zoonoses, vous savez que ce virus vient des animaux sauvages, aucune des causes des zoonoses n'a été annulée. Donc on continue les élevages hyper intensifs par lesquels se propagent ces virus, c'est là qu'ils mûrissent. Donc déjà, la première chose que je prendrai dans le long terme, c'est d'interdire ces élevages collectifs, immenses, enfin, on n'ose pas dire concentrationnaire, j'ai pas trouvé le mot équivalent, parce que le mot serait mal adapté si je disais concentrationnaire. Mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Le premier élevage de poulets, c'était 160 000 poules, ça s'appelle pas un élevage, ça s'appelle une ferme. Primo. Segundo. J'équiperai de manière à ce que on ne soit pas continuellement débordé par les événements. Prenons l'exemple des écoles. Ça fait plus d'un an qu'on dit qu'il faut mettre des épurateurs d'air, qu'il faut faire l'école par roulement. Et pour ça, allez voir comment on fait dans des dizaines de pays où on fait l'école par roulement, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'installations. Donc on peut prendre modèle sur les autres. Épurateurs d'air, école par roulement, démarrage des heures de travail par roulement pour diminuer la possibilité de se contaminer les uns les autres.
Et appel au vaccin ou pas ?
Alors, le vaccin fait partie des moyens qui permettent de réduire le risque. Pour ma part, je suis vacciné et je me bats sur le plan international, au contraire de cet hypocrite de Véran, pour que tous les pays puissent accéder librement au vaccin et non pas faire l'aumône sanitaire à laquelle procède Monsieur Macron, comme vous l'avez vu, puisqu'il dit on va distribuer des doses de vaccins. C'est pas sérieux. Il nous faut des milliards de doses de vaccins pour faire face et vacciner une population de 7 milliards. Alors, l'État d'Israël a fait une remarque que je trouve très juste, qui a été de dire peut-être qu'Omicron va être la dose, si vous voulez, gratuite, puisqu'il est moins dangereux. Cependant, il est quand même dangereux, hein. Allons pas dire que c'est une simple grippe,
hein. Vous dites aux non-vaccinés, Jean-Luc Mélenchon, allez vous faire vacciner. C'est tout de même trop grave. Allez-y.
Écoutez, vous dites ce que vous voulez, vous me laissez dire moi ce que je veux dire.
Je vous pose la question. Est-ce que vous le dites,
non, mais à chaque fois que je passe quelque part, ça n'intéresse pas ce que je raconte.
Écoutez-moi. Vous voulez qu'on vous laisse parler.
Vous êtes trop bon. Mais laissez-moi vous dire que la chose suivante. Le vaccin, écoutez, l'OMS a dit, il faut convaincre et non pas contraindre. Si les gens ne sont pas convaincus, on s'en prend aux pas convaincants, pas aux pas convaincus. Aujourd'hui, si je vous répondais, comme vous avez l'air de le souhaiter, j'aggraverais la pagaille qui existe aujourd'hui dans les DOM et les TOM, c'est-à-dire aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, Guyane.
Pourquoi vous dites
parce
ça?
Parce qu'il y a une...
Peut-être que vous arriveriez à les convaincre de se faire vacciner tout simplement en le disant.
Oui, bien sûr, non. Parce que les gens ne sont pas à la demande d'un papa ou d'une maman. Ils sont à la demande d'arguments rationnels. Et permettez-moi de vous dire que ce qui se passe aujourd'hui... Non, il n'y en a pas. Pardon, mais reconnaissez aux autres, je dis pas à moi, puisque moi je suis vacciné. Mais écoutez ce que vous disent les gens et comment ils présentent la situation. Le fait d'être vacciné ne vous empêche pas d'être contaminé.
Oui, mais n'empêche,
ne vous empêche pas de contaminer les autres. C'est certain, mais c'est la raison pour laquelle je défends, je ne suis pas sur la ligne, le malade est responsable de sa maladie. Voilà, d'accord, on s'est compris. C'est la ligne du gouvernement. Moi, ma réponse est que... Il faut une réponse globale, et donc que c'est globalement qu'on prend les problèmes à l'intérieur duquel le vaccin est un des instruments. Par exemple, une des bonnes manières de se protéger serait que sur tous les lieux de travail, les salariés puissent se réunir pour discuter des conditions sanitaires les plus efficaces. Disons-le aux gens, il n'y a même pas 5 minutes en entrant dans ce studio, on a discuté ensemble de comment ça pouvait se passer. Je vous ai dit pourquoi moi je garderais mon masque FFP2. On en a parlé normalement, ça n'était ni choquant, et on n'était pas en train de créer un soviet. Donc on pouvait parfaitement faire la même chose sur tous les lieux de travail. C'est à ça que j'appelle. Après, je dis, moi, je me suis vacciné. Faites comme vous l'entendez, mais ne faisons pas croire que la vaccination est la réponse unique. Et c'est ce que fait le gouvernement. Il passe son temps à dire, si vous êtes vacciné, il n'y aura plus de risque. Ce n'est pas vrai. Alors, le vaccin va réduire le risque, mais il ne suffit pas. Il y a tous les autres, qui est les gestes barrières et tout ce que je viens de décrire.
Alors,
il y a un instant.
Jean-Luc Mélenchon, il y a énormément d'auditeurs qui souhaitent dialoguer avec vous. On va leur donner la parole dans une minute après une question rapide sur l'Europe. La France a pris la présidence tournante de l'Union.
Pourquoi on n'a pas parlé non plus? Pardon, je veux dire un mot, juste un petit mot pour mettre un point sur les i. On a donné en 10 ans 1 milliard d'impôts crédit recherche à Sanofi. J'aimerais savoir ce qu'ils font, ceux-là. Et Monsieur Paul Hudson, qui est le PDG de cette entreprise, qui avait commencé par dire que si par hasard il trouvait un vaccin, il donnerait d'abord aux Américains, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait, cet homme. Parce que comment il dirige son entreprise, et vous voyez que ça vérifie ce que je dis depuis le début, à savoir que Quand on subventionne la recherche privée, elle se dirige vers ceux qui donnent le résultat le plus immédiat de mise sur le marché. C'est ce qui s'est passé pour Sanofi, qui était une très grande entreprise de la pharmacie, qu'elle ait été privée au public, c'était pas le sujet. Pour moi, c'en est un, puisque je suis pour un pôle public du médicament. Mais que font tous ces gens? Pourquoi ne parle-t-on jamais des remèdes quand on est malade, de ce qui permet de soigner les gens?
Les traitements, on en parle.
Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Je parle de l'autorité publique. Où est passé le traitement de l'Institut Pasteur à Lille? Où est passé le traitement qui était annoncé par Sanofi? Le jour où vous et moi, on pourra dire ici, ah ben si par malheur, vous êtes gravement atteint, il y a un traitement, vous n'en mourrez pas, vous savez bien que l'ambiance changera du tout au tout. Pourquoi ne parle-t-on plus des traitements? Il faut absolument que ces traitements commencent à circuler. Vous savez qu'il y en a un qui arrive de Chine, donc il est idéologiquement suspect, puisque le gouvernement ne permet aucun médicament qui vienne ni de Russie ni de Chine. Pour les deux,
vaccins. C'est l'autorité de la, c'est l'autorité européenne du médicament.
Dites pourquoi?
Dites pourquoi? Parce qu'il y a une autorité européenne du médicament.
Sur le marché, ouais. Pourquoi? Parce qu'elle considère que le médicament est une marchandise, alors que la santé n'est pas du domaine de compétences européennes. Je pense qu'il faut que... Non, c'est pas pour vous embêter que je dis ça. C'est pour montrer qu'il faut permettre aux gens aussi de comprendre quelle est la mentalité. Jean-Luc pour l'Union Mélenchon. Européenne, le vaccin est une marchandise.
Vous nous faites la transition avec l'Union Européenne. On va essayer de vous poser quelques questions sur l'Europe, si vous le voulez bien.
Oui, ben, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire.
Non, parce que surtout, on veut donner la parole aux auditeurs. Oui, oui. Il y en a beaucoup, bien et sûr. Ils veulent vous parler.
Allez, on commence donc par cette présidence tournante de l'Union que la France a prise le 1er janvier. Polémique instantanée, voilà, c'est souvent comme ça aujourd'hui, polémique instantanée sur le drapeau européen qui a flotté pendant quelques heures sous l'Arc de Triomphe pour marquer le début de cette présidence. La Tour Eiffel était illuminée en bleu avec des étoiles aussi. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse ont réagi, ils se sont dit choqués que le drapeau français ait été retiré.
Oui, moi aussi.
Voilà, vous aussi, pour quelle raison?
Alors attendez, mais commençons d'abord par ce qu'il y a de plus fondamental. Dès le mois d'août dernier, j'ai expliqué que je déplorais que le président de la République, qui sait qu'il est en année électorale présidentielle, ou son propre mandat pourrait trouver un terme au mois d'avril, n'ait pas eu assez de sens des responsabilités pour dire on décale la présidence française puisque nous sommes dans un groupe de trois. Alors, dans un groupe de trois pays, pardon, il faut être précis, et donc, ça s'est déjà produit, les Allemands l'ont fait une fois, se sont décalés.
Il a choisi de ne pas le faire.
Il a choisi de ne pas le faire, et je déplore qu'il ait fait ce choix, parce que la présidence française a donc été préparée par lui, ses services et le reste. En fait, sa marge de manœuvre est très faible, parce que ça fonctionne dans ce qu'on appelle un rolling agenda, c'est-à-dire quelque chose qui pousse les mesures de l'un vers l'autre, d'un pays vers l'autre, d'un semestre vers l'autre. Donc, sa marge est faible. Mais néanmoins, la France a été en quelque sorte anesthésiée dans cette affaire, parce qu'elle ne peut pas monter au créneau sur les sujets qui pourraient nous paraître, nous, essentiels. Je veux dire les choses comme elles sont. Si je gagne l'élection présidentielle, admettez un instant, puisque vous m'invitez comme candidat à la présidentielle, vous voyez bien que ça changera du tout au tout les demandes et ce qu'on fera passer en Europe. Quand aurais-je eu le temps de le préparer? Heureusement, je l'ai fait avec mes équipes.
Alors justement,
vous voyez que là, il y a un problème. Quant au problème du drapeau, alors là, c'était couru d'avance, parce que, pardon, mais je veux pas déranger, hein, mais en 2005, il y a eu un vote qui a été non à la Constitution européenne. Le président Sarkozy a ramené un autre texte, qui était le même d'après Giscard d'Estaing, écrit différemment. Et le président Sarkozy a signé un protocole dans lequel il disait, et ça a été la condition pour le présenter au vote du Congrès du Parlement, que ni l'hymne ni le drapeau ne seraient reconnus comme tels par la France. Il y a un protocole. Là-dessus, le président Macron a décidé tout seul, et sans demander rien à personne, qu'il le signait quand même, ce protocole. Alors, il y a quand même un décret qui interdit de pavoiser sans les couleurs nationales. C'est tout, voilà. Alors, on pourrait peut-être respecter ça et pas seulement faire des caprices communicatoires avec les symboles de l'État.
Sur l'Union européenne, Jean-Luc Mélenchon, on a lu précisément votre programme pour cette année et on a relu aussi votre programme d'il y a 5 ans. Un des marqueurs de votre programme d'il y a 5 ans, Jean-Luc Mélenchon, sur l'Europe, c'était « J'ai un plan A. Si je suis élu président, je change les traités européens. Si ça ne marche pas, le plan B, on quitte l'Union européenne », avec cette phrase que vous aviez reprise, « L'Union européenne, on la change ou on la quitte ». Elle n'est plus dans le programme actuel. On a toujours le plan A et le plan B, mais dans ce plan B, on ne quitte plus l'Union européenne si vous n'arrivez pas à changer les traités. Est-ce que vous avez changé sur ce point?
Alors, c'est la méthode qui a changé. Et je veux le dire aussi clairement que possible. Parce qu'évidemment, on se perfectionne d'une campagne à l'autre et on examine les cas concrets. Les raisons pour lesquelles je pense que si je me heurtais à une opposition de toutes les autres nations, et vous savez qu'en ce moment, le sentiment anti-français est assez violent dans l'Union européenne. À deux reprises, des coalitions se sont montées contre une proposition française et on finit par avoir le dernier mot, y compris quand nous étions alliés aux Allemands. Bon, ça s'est produit à deux reprises. Donc il faut tenir compte du rapport de force. Premier élément. Deuxième élément, il faut se rendre compte que si nous venions à dire, eh ben, comme ça, là, comme les Anglais, allez, au revoir, on s'en va, ça revient à dire qu'on donne les clés du camion à la nation allemande. Ce dont il ne peut pas être question, à mes yeux.
Donc on ne partira pas, quoi qu'il arrive. C'est ce que vous dites ce matin?
Non, c'est pas ça que je dis. Je termine mon raisonnement. Je veux dire pourquoi les conditions ont changé autour de nous. Donc nous devons évaluer correctement le rapport de force de manière à être nous-mêmes dans un rapport de force. Que ferons-nous au lieu d'avoir un débat idéologique? Et pour permettre peut-être que certains fassent un pas vers moi, je propose la chose suivante. Le programme que voici, l'avenir en commun, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, sera appliqué. Et si l'Union européenne, ce qui est vrai, s'oppose alors au contenu de ce programme.
Parce qu'elle s'y opposera. Vous le savez qu'il y a beaucoup de vos propositions qui ne vont pas avec les traités actuels.
Absolument.
Ah, qu'est-ce qui se passe?
Alors, à ce moment-là, nous pratiquerons l'opt-out. C'est-à-dire, nous dirons, nous n'appliquons plus telle règle de l'Union européenne. Et nous proclamerons le fait suivant. Il y a un principe de non-régression sociale et écologique dans l'esprit des Français. Autrement dit, nous n'appliquerons plus jamais en France, quoi que ce soit, qui soit un droit moindre que celui
et
que nous avons.
Et donc nous serons exclus de l'Union européenne.
Madame Salamé, ce n'est pas vous qui en déciderez.
Non, mais je c'est comme ça que... les règles aujourd'hui. C'est non, pas du mais, tout moi, mais c'est les règles de la primauté du droit européen.
C'est que je vois que vous ne connaissez pas assez finement le sujet. Parce que sur des tas de sujets, il y a déjà de l'opt-out. Pas seulement du temps des Anglais qui avaient fait opt-out sur les lois sociales. Il y a des pays qui ne pratiquent pas l'euro. Il y a des pays qui ne sont pas dans le système de défense. Il y a des pays qui n'appliquent pas, par exemple, les règles de libre concurrence comme l'Allemagne sur la production de l'eau. Par conséquent, ce que feront les Français pour la première fois, c'est de défendre leur propre position et le suffrage du peuple français avant les considérations qui sont d'ordre européen.
Jean-Luc Mélenchon.
Mais vous m'avez bien compris. Ce qui ne se négociera pas, c'est la décision des Français. Deuxièmement, tous ceux qui me font le procès permanent que je souhaiterais ou quitter l'euro ou quitter l'Europe, doivent tenir compte de ce que je dis. Et est-ce qu'ils sont prêts à faire un pas vers moi pour dire, eh bien, cette politique-là, qui donne raison au programme avant le reste, sera appliquée. Un mot pour finir.
Parce que là, les auditeurs voudraient dialoguer
attendez,
avec
oui,
vous.
Oui, oui, moi, je voudrais aussi surtout exposer ma position, si vous le permettez.
Mais surtout,
vous
votre position, elle est liée aux questions
suivante.
Qui vont arriver, puisque c'est
oui,
la gauche, puisque vous adressez à la gauche, là.
Oui. Écoutez, tous ceux qui sont en train de développer des programmes, comme par exemple, je l'ai entendu chez certains écologistes, contre la libre circulation, le marché ouvert, eh bien, c'est absolument contraire au statut européen. Comment font-ils de leur côté pour dire des choses dont ils savent qu'elles ne s'appliqueront jamais dans le cadre de leur pensée politique?
Allez, une courte pause et la parole aux auditeurs de France Inter. Il est 8h49.
France Inter, un candidat face au 7-9.
Et ce candidat aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon qui va maintenant répondre à vos nombreuses questions. 01 45 24 7000, application de France Inter. Léa, on peut le dire, énormément d'auditeurs ce matin. Christine, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Léa, bonjour Nicolas,
bonjour
Mélenchon.
Bonjour, c'est vous
madame.
Qui ouvrez le bal.
Vous m'entendez bien?
Parfaitement oui. Bien.
Alors, j'ai lu ce week-end, moi, un magnifique texte de Madame Taubira. Je trouve que les mots ont un sens à l'heure d'aujourd'hui. Et je souhaiterais savoir si vous, Monsieur Mélenchon, seriez prêt à vous unir à ces idées. Voilà, je suis conseillère au Pôle emploi, feu la NPE. J'ai vu passer 11 ministres du Travail, je crois, depuis 2005. Et je pense qu'il est temps de changer les choses en profondeur. Alors, unissez-vous, dites-moi ce que vous êtes prêt à faire.
Merci Christine. J'ajoute que sur l'application France Inter, il y a très nombreuses questions sur ce thème. Si Monsieur Mélenchon ne peut pas rassembler la gauche, comment peut-il rassembler la France? Vous demande Emmanuel. Romain est exactement dans cette direction. Pourquoi ne pas discuter sur ce qui rassemble la gauche? Fabrice dit la même chose. Il est dommage qu'en France, Jean-Luc Mélenchon ne veuille pas l'union des partis de gauche. Voilà, vous voyez quel ensemble de questions formulent nos auditeurs.
Oui.
Que pouvez-vous leur répondre?
D'abord que tout le monde n'est pas de cet avis.
Bien entendu.
Mais il ne s'exprime pas dans les, dans le...
On va voir. Il y a énormément de monde au standard, je vous l'ai dit. D'accord. Mais sur ces questions-là, qui sont nombreuses.
Oui. Alors, est-ce que le dialogue est possible sur les idées? Évidemment. Je voudrais juste signaler que nous sommes à moins de 100 jours de l'élection. Je pense qu'il faut respecter la démocratie et les citoyens. Les propositions d'union, je les ai faites il y a 2 ans. Ça s'appelait, j'ai appelé ça un coup Front Populaire, une autre fois Fédération Populaire. On m'a répondu non. Aux élections régionales, j'ai proposé la même chose. Nous avons été exclus de certaines listes, vous m'entendez? Exclus par qui? Eh ben par ceux-là même à qui vous demandez l'union aujourd'hui. Donc je ne suis pas rancunier, mais je dis que par respect pour la France, qu'il s'agit de gouverner dans moins de 100 jours, il faut être prêt, c'est-à-dire avoir un programme et des équipes. J'ai un programme, nous l'avons travaillé et amplement détaillé, il est là, il est publié, tout le monde peut dire je suis d'accord avec Mélenchon ou pas d'accord avec Mélenchon, d'ailleurs pas avec Mélenchon, c'est avec l'avenir en commun le programme. De la même manière, on peut constater que je suis en état de vous proposer une équipe. Naturellement, il n'y a pas qu'elle qui gouvernera le pays. Mais enfin, 17 parlementaires qui ont fait leur preuve à l'Assemblée nationale, 5 au Parlement européen, je crois que voilà. Et plus tous ceux qui sont aujourd'hui rassemblés dans ce qu'on a appelé le Parlement de l'Union Populaire. Des personnalités comme Madame Aurélie Trouvé, qui préside ce Parlement, sont des gens qui sont en état de gouverner, de décider. Donc voici ma proposition, je demande qu'on la considère. Alors, bien sûr, je suis prêt à discuter de tout ce qu'on veut, mais ce ne serait pas sérieux de dire, eh ben écoute, on recommence tout à zéro, à moins de 100 jours de l'élection, on va voir sur quoi on peut s'entendre, sur quoi on ne s'entendra pas, et puis on votera. Je trouve que c'est pas sérieux. Et je vais vous dire le fond de l'affaire. On ne peut rassembler la France que si on est déjà capable de rassembler des gens sur des idées. Ce qui nous manque, ce n'est pas l'union, c'est la mobilisation. Si la masse des Français se mobilise sur des idées, tout sera emporté. Et c'est le mécanisme sur lequel je compte. Tandis que pour faire l'union, il faudrait se taire sur toute une série de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Je vous en prends un tout simple, qui pour moi est fondamental. La question de la retraite. Je milite pour la retraite à 60 ans, à 40 annuités. Les socialistes ont porté la retraite à 62, à 43 annuités, et M. Sarkozy l'a mis à 62 ans, et Mme Hidalgo a dit qu'elle voulait le sanctuariser à 62 ans. Qu'est-ce que je vais dire? Alors on va pas parler de retraite, pour ne fâcher personne. Tout à l'heure, vous m'interrogiez sur l'Europe. J'ai dit, moi, le plan qui est là, ce programme s'appliquera quoi qu'il arrive. Je sais très bien.
Et Sam Taubira convient que vous avez des divergences de fond, notamment sur l'Europe et sur le nucléaire, mais elle dit, on peut quand même gouverner ensemble pendant 5 ans. Vous lui dites non, vous.
Mais non, j'ai pas dit ça du tout.
On peut dépasser nos convergences sont plus grandes.
Mais si j'arrive au deuxième tour, ce qui est une des probabilités de cette élection, c'est une des probabilités, elle n'est pas garantie, mais elle existe, cette possibilité existe. Il est évident qu'à partir du moment où j'arriverai à cette échelle du deuxième tour, je dirais, mais qui veut gouverner avec nous sur cette base-là? Alors, est-ce que vous avez des choses qui vous posent un problème tel, les uns les autres, que là, vous demandez une rectification? Bon, alors à ce moment-là, on parlera. Mais on aura un cadre, on aura entraîné une masse de Français sur une perspective. Par conséquent, je le redis, le problème, ça n'est pas l'union et la mobilisation. Et permettez-moi de vous dire une chose, je suis un peu fatigué de voir comment toute une certaine gauche passe son temps à gémir et pleurnicher sur le thème, s'il n'y a pas d'union, eh ben, il n'y a pas de victoire possible, donc nous avons perdu d'avance. Alors, sous-entendu, qu'est-ce que vous faites encore là? Et ça donne le résultat à une émission dont vous vous souvenez, Madame Salamé, nous étions tous les deux avec monsieur Laurent Ruquier, qui disait, ah ben, puisque vous êtes si désunis, il n'y a qu'à voter pour monsieur Macron dès le premier tour. Alors, pardon, mais il y a des ficelles qui sont un peu grosses. Cette manière d'organiser la désespérance permanente. Moi, je dis aux gens, mobilisez-vous, agissez, convaincant toutes les semaines, mes camarades sont dans les cités.
Il y a une autre manière, c'est la primaire, mais vous ne voulez pas y participer.
Alors, non, mais la primaire ne réglera rien, madame.
Jean-Luc Mélenchon.
Mais enfin, attendez, une question.
Une petite question sur la primaire. C'est Michel qui vous la pose. Il habite dans les Bouches-du-Rhône et il a la parole. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Allez, on vous écoute. Vous pouvez vous exprimer.
Ok, merci. Bonjour, merci de prendre mon appel. Donc, Michel Nicolas, 62 ans. Je suis un électeur de gauche depuis 40 ans. J'ai une remarque, un message et une question pour Monsieur Mélenchon. La remarque, l'échec est indiscutable en cas de candidature multiple à gauche. C'est une évidence pour tout le monde. Le message, M. Mélenchon, si vous jouez le jeu de la primaire populaire, je voterai pour vous. Dans le cas contraire, je ne voterai pas pour vous et je ferai tout en sorte pour que personne ne vote pour vous. Et ma question, c'est pour quelle raison vous persistez à conduire le peuple de gauche à une défaite inéluctable?
Merci Michel pour cette question. Si primaire, il vote pour vous. Si pas primaire, ce sera non. Jean-Luc Mélenchon vous répond.
Ben, je crois qu'il est temps de commencer à faire campagne contre moi parce que je n'irai pas à cette primaire, ce n'est pas sérieux. Quand vous dites c'est un échec indiscutable, vous ne tenez aucun compte de l'histoire. Je suis moi aussi un électeur de gauche depuis que je peux voter. Et autrefois, quand on disait l'union, on disait c'est l'union parce qu'on voulait la retraite à 60 ans. Et celui qui ne voulait pas de l'union s'opposait donc à la victoire possible de la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, si nous faisons l'union, ça sera parce qu'on parlera pas de la retraite, pour prendre que cet exemple. Donc je voudrais en plus compléter l'idée. Mais ce n'est pas vrai dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit ce que vous racontez. En 1981, François Mitterrand a gagné, il y avait un candidat communiste contre lui alors qu'on était dans l'union de la gauche à l'époque. Et ce candidat communiste, Georges Marchais, a fait presque 16%. Et ça n'a pas empêché la victoire après. Ce qui
là,
compte...
il y en a 7, il n'y en a pas un.
Mais il y avait déjà... Non mais, alors, Madame Salamé, pourquoi embrouillez-vous? Il y avait déjà 6 candidats à l'époque de François Mitterrand. Alors, ce n'est pas la première fois. Et quand je dis 6, je ne suis même pas sûr qu'il n'y en avait pas 7 aussi. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de quel côté l'opinion des Français, la volonté des Français se dirige-t-elle? Qu'est-ce qu'elle veut, cette opinion? Je crois, moi, que si nous ne respectons pas les Français, si nous ne sommes pas sincères, si nous essayons d'embrouiller tout dans des phrases qui permettent à tout le monde de s'y retrouver, alors que c'est sans contenu, c'est là qu'on ira à la défaite. Je le redis, le problème, c'est la mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire de me dire, non seulement il ne voterait pas pour moi, il ferait campagne contre moi, il fait déjà campagne contre moi. Et nous en sommes à la deuxième question, où on voit à chaque fois apparaître des gens qui pensent que c'est moi qui suis responsable. Mais pardon, c'est encore... Mais c'est moi, ils viennent le dire. C'est vous qui entraînez le peuple de gauche à la défaite, pourquoi moi? Pourquoi s'en prend-on à moi qui est le seul qui ait proposé l'union il y a 2 ans, quand c'était sérieux? Mais même qui depuis est en tête depuis 1 an dans tous les sondages. Alors, bon, ça n'est pas suffisant, il en faut davantage, je le sais bien, mais enfin, c'est quand même la réalité. Qu'est-ce que je leur ai fait à ces gens-là, moi? Pourquoi ils ne m'aident pas à faire avancer ce programme? D'où sort ce programme? L'ont-ils lu? C'est un programme qui est le condensé de ce qui se dit dans la société, dans les associations, dans les syndicats. Alors, pourquoi pas ce programme?
Vous êtes en colère, en tout cas.
Non, je ne suis pas en colère du tout. Non, mais attendez. Je ne suis pas en colère, je parle avec un masque FFP2 sur la figure, voilà, ce qui rend l'expression extrêmement pénible et le souffle court. Et comme j'en suis à répondre pour la deuxième fois à la question avant qu'arrive la troisième question sur le même sujet, je suis donc prêt à, vous comprenez, à reprendre mon souffle.
Pardonnez-nous qu'il y a un tsunami de questions sur ce sujet-là,
oui,
je vous assure,
oui,
on peut
sûr,
vous les montrer.
Bien sûr, oui, je vous crois, absolument.
Allez, Olivier est à Paris, bonjour,
oui,
et bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous avez une question rapide, s'il vous plaît.
Oui, une question rapide. Monsieur Mélenchon, j'aurais volontiers voté pour vous, mais je ne peux pas voter pour un monsieur qui s'emporte pour un rien, à chaque fois qu'on le chatouille, qui est explosif, volcanique, et on peut pas, c'est pas digne d'un président, et ce n'est pas jouable.
Merci.
Désolé, mon monsieur.
Merci, Olivier, pour cette question à laquelle Jean-Luc Mélenchon va répondre.
Non, je n'ai rien à dire.
Et ben voilà, il est 9h, le flash Anaïs Feuga, et on se retrouve pour la dernière partie de cette matinale spéciale.
France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand, un candidat face au 7-9.
Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Dans les minutes qui viennent, Jean-Luc Mélenchon, vous allez être interrogé par Sandy Dauphin, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter, par Pierre Aski sur l'international, Thomas Legrand sur la politique, Augustin Trapenard vous posera enfin la dernière question de cette émission. Quant à la première, maintenant, elle porte sur l'économie et elle vous est posée par vous, Dominique Seux.
Oui, bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour.
Une question sur votre programme. On va se mettre dans l'hypothèse où vous êtes élu, vous avez gagné l'élection présidentielle. Vous avez, page 84 de votre programme, une proposition très précise qui est de fixer un salaire maximal en France égal à 20 fois le salaire minimum dans les entreprises. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est, parce que ça concerne des milliers, des millions de personnes qui sont intéressées par ce sujet, de personnes sont intéressées par ce sujet, comment ça se passe dans les entreprises?
Quelques petites poignées, hein, dans le réel.
Alors, ça intéresse des millions de Français de savoir comment dans les entreprises où ils travaillent, on peut limiter l'écart des rémunérations. Et j'ai envie de savoir comment ça se passe pour la tête du groupe Stellantis, comment ça se passe pour un footballeur comme Lionel Messi. Est-ce qu'on plafonne son salaire à 30 000 euros par mois. J'ai envie que vous m'expliquiez cela.
Jean-Luc Mélenchon vous répond.
Je vois tout de suite les cas douloureux que vous soulevez et je tiens à exprimer ma compassion. Hein ? Cependant, nous sommes en charge non pas de quelques brillantes personnalités, mais d'un peuple tout entier qui pâtit du fait que s'accumulent d'un côté tous les biens et de l'autre se diminue la proportion qui se distribue. La clé de mon programme économique est de modifier la répartition entre capital et travail de la richesse qui est produite, qui vient en plus de ce dont on a besoin pour reproduire l'outil de travail. J'espère que c'est assez clair pour qu'on le comprenne. Il faut changer le curseur. La richesse est accumulée à un pôle et la société est plus inégalitaire que jamais. Alors pourquoi de 1 à 20 ? Je trouve ça, moi, trop large, 1 à 20. Si c'était que de moi, on réduirait de 1 à 10. Mais 1 à 20, c'est la revendication de la Confédération européenne des syndicats.
J'entends bien, Jean-Luc Mélenchon, votre diagnostic, et un certain nombre d'auditeurs, sans doute, peuvent le partager, mais comment vous faites ? C'est-à-dire, vous dites au patron de Stellantis, donc 8 marques, un groupe mondial dans l'automobile, vous lui dites, attendez, maintenant, c'est fini. Vous dites, et oui. Je reviens à mon exemple, au footballeur, un des footballeurs les mieux payés du monde, qui est au PSG, vous lui dites, maintenant, vous êtes à tel revenu.
Je crois que vous êtes un petit peu hors de la réalité dans votre propos. Parce que ce que chacun croit, c'est une entreprise dans laquelle il n'y a ni Messi, ni un groupe mondial. Mais je vais venir au groupe mondial. Les footballeurs, c'est un autre sujet. Si vous voulez bien, on va le mettre de côté pour l'instant.
Donc ça ne les concernerait pas ?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis on les met de côté pour l'instant. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas significatif. La vérité est que si vous mettez une échelle de salaire dans une entreprise, chaque fois que celui qui est en haut veut s'augmenter, ce qui ne dépend que de son bon plaisir aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a eu une progression formidable des salaires des grands PDG du CAC 40 et autres, et qu'au début ils avaient accepté, après qu'on ait eu beaucoup de scandales, qu'il y aurait une espèce d'autorégulation. Il n'y a jamais eu aucune autorégulation. Quand vous faites de 1 à 20, ça veut dire que quand vous êtes celui qui est en haut, eh ben, si vous voulez vous augmenter, vous êtes obligé de prendre celui ou celle qui a le salaire le plus bas dans l'entreprise.
Donc vous fixez un salaire, vous, par la loi, assez rapidement. Vous êtes à l'Élysée, vous dites le salaire mensuel maximum en France, il est de temps. En 2017, vous aviez stratégie qui était un petit peu différente.
De 1 à 20 ne veut pas dire ça.
Ah.
Non. De 1 à 20 veut dire que dans une entreprise, vous prenez le plus haut salaire et vous prenez le plus bas. Et vous ne devez pas avoir un écart supérieur de 1 à 20. S'il est supérieur, soit vous augmentez ceux qui ont le moins, soit vous diminuez ceux qui ont le plus. Mais ça ne revient pas à fixer un salaire maximum, sinon dans la proportion que je viens d'indiquer de 1 à 20.
D'accord. Dans votre programme, il est écrit un salaire maximal en France. En 2017, vous aviez une autre stratégie qui était de passer par l'impôt, en disant on remonte...
Non, c'était la même, pardon, excusez-moi de vous contredire, mais c'était exactement la même, de 1 à 20, et il y a en plus l'impôt qui arrive là-dessus. Et dans la tranche, alors, comment on procède pour qu'il y ait une idée de la manière d'organiser les variations ? Oui. Nous sommes partis du revenu moyen. Le revenu, hein, ce n'est pas pareil que le salaire moyen. Le revenu moyen est à 2000 euros. Vous entrez dans le détail, j'y entre moi aussi. Et donc, nous avons estimé que l'écart de 1 à 20 devait s'appliquer à toutes les réalités de revenus des personnes.
Par ailleurs, vous fixez un taux maximal d'imposition à 80-90% en France ? C'était dans votre programme de 2017.
J'ai attendu que vous terminiez la phrase parce que je sais que vous avez le goût de la précision. Alors, l'impôt à 90% dont vous parlez concerne la dernière tranche des 14 tranches que j'établirai vu qu'il n'y en a que 5 aujourd'hui. Et dans la dernière tranche sera à 90% pour la partie qui dépasse cette tranche. D'accord ?
C'est-à-dire ceux qui gagnent 400 000 euros, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
400 000 euros, nous parlons là de gens qui vont être martyrisés par cet impôt, évidemment. Hein. Je suis conscient de leur douleur. Hein.
Merci Dominique. On en vient maintenant aux questions d'écologie avec vous, Sandy Dauphin, spécialiste environnement de la rédaction de France Inter et questions sur le nucléaire.
Oui, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous mettez l'écologie au cœur de votre programme. Vous fixez comme objectif 100% d'énergie renouvelable en 2050, une baisse de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Emmanuel Macron, lui, mise sur le nucléaire, une énergie qualifiée de bas carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous dites au contraire qu'il faut sortir du nucléaire. À quelle échéance et comment ?
Bon, moi j'ai pris le scénario négawatt, quoi qu'il me semble trop long. Mais j'ai pris ce scénario parce que ce sont des experts qui travaillent depuis des années et qui fixent des dates de manière raisonnable. au début, ils avaient dit en 2035, on peut en sortir. Monsieur Macron nous a fait perdre 10 ans, donc on est obligé maintenant de dire 2050. Mais d'abord, je voudrais débarrasser la question du nucléaire d'un aspect idéologique qui n'a rien à y faire. Je ne suis pas pour sortir du nucléaire parce que j'aurais une espèce de... je ne supporterai pas le nucléaire ou les usines nucléaires, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est dangereux. C'est très dangereux. Et lorsque le danger a lieu, il est irrémédiable. C'est 100% de dégâts. Nous sommes un pays géographiquement limité. Un incident et c'est fini. Autrement dit, un incident dans la vallée du Rhône où se trouve concentré le plus grand nombre de nos réacteurs nucléaires et le plus grand nombre des installations chimiques du pays, et l'économie du pays est immédiatement effondrée. Dans l'avenir écologique proche, qu'il s'agisse de la centrale qui se trouve dans le nord du pays ou celle qui se trouve face à l'Atlantique, la centrale du Blayais, nous savons que les niveaux d'eau vont rattraper le niveau auquel se trouvent les centrales aujourd'hui. C'est dangereux. Je m'oppose à ce qu'on reste dans le danger et je souhaite qu'on en sorte. On en sort de manière organisée, disciplinée et technique. Alors pourquoi technique ? Parce que la France est un pays technicien, est un pays plein d'ingénieurs. À un moment donné, on avait le record de formation des ingénieurs dans le monde pour 100 000 habitants. Nous sommes capables de demander à nos ingénieurs, sortez-nous de là.
Démanteler 56 réacteurs, ça ne va pas être une mince affaire.
Je suis d'accord avec vous, puisqu'on n'est même pas été capable d'en démonter un seul jusqu'à présent, celui qui a commencé il y a 20 ans. Vous et moi, à cet instant, on devrait s'affliger d'une telle réalité. Le coût que va coûter le grand carénage, c'est-à-dire 17 de nos réacteurs ont dépassé leur limite de vie prévue au départ de 40 ans. Pour les porter à 60 ans, alors les chiffres varient suivant les uns et les autres, on est entre 80 et 150 milliards d'euros. Cette somme serait plus adaptée à mettre d'autres choses en place. Mais commençons par noter ce que vous avez dit parce que c'est juste. Comment on va faire pour arrêter tout ça ? C'est un grand problème technique. Deuxièmement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul centre de recherche qui travaille sur la radioactivité pour en abaisser le niveau de sorte qu'on se débarrasse des déchets nucléaires ? Troisième élément qui va avec ça. Quelles sont les productions alternatives ? Nous pourrions chauffer toute la région parisienne avec la ressource technique qui se trouve sous nos pas. Mais, thermique. Mais je vais vous donner un exemple plus simple. Un réacteur nucléaire égale 45 éoliennes offshore. Offshore, je dis bien offshore, c'est-à-dire en mer. Et nous sommes capables d'installer des éoliennes à 25 km des côtes. Ce sont des éoliennes qui ont un débit de 240 mètres, si on considère la longueur totale des pales.
Sauf que le premier projet a été lancé il y a 10 ans. L'éolien offshore, et on attend toujours sa mise en service.
Vous avez raison de souligner qu'il y a eu une criminelle lenteur, et de la part de l'État, des changements d'opinion continuels qui rendaient impossible le travail sérieux. Je vous invite à aller à l'école d'ingénieurs de Nantes, et vous verrez les maquettes, et vous verrez le travail qui a été commencé, et vous verrez qu'ils savent déjà faire une borne en mer, en quelque sorte, sur laquelle on peut brancher tout ça. Maintenant, faire ça, écoutez-moi, je voudrais terminer pour donner une idée de ce que ça représente. C'est du travail pour des milliers d'ingénieurs. Deuxio, ce sont des bateaux de service pour approvisionner ces éoliennes offshore à 25 km. C'est du travail pour des milliers de gens à terre, parce que une pale de 240 mètres, c'est-à-dire divisé par deux, ça ne s'exporte pas. Vous pouvez pas le faire venir depuis Hong Kong. Vous êtes obligé de le fabriquer là. La logique de mon programme économique n'est pas seulement ce qu'a voulu faire Monsieur Seux tout à l'heure, c'est-à-dire donner l'idée que j'allais prendre les sous à tout le monde. L'idée, c'est qu'on donne tellement de travail à faire, de tous les côtés. Tout ce qui amène au travail m'importe. Et c'est ça qui fait tourner l'économie. Passer du nucléaire au non-nucléaire, c'est une énorme quantité de travail et c'est de la valeur réelle, des choses réelles qui sont produites.
Sandy Dauphin.
Je voudrais juste un argument des pro-nucléaires, c'est de dire, regardez, en Allemagne, qui veut sortir du nucléaire, il y a une dépendance au charbon, c'est 28% de l'électricité, et puis il y a une dépendance à la Russie pour importer le gaz. Comment vous faites ?
Ah oui, c'est drôle Jean-Luc que Mélenchon. La dépendance pose problème quand c'est la Russie. Par exemple, la dépendance au soja argentin, ça a l'air de poser de problème à personne. Pourtant, il n'y a pas de poules et il n'y a pas de vaches si elles ne peuvent pas en manger. Mais enfin, bon, comme le gaz est russe, par conséquent, ils sont plus mauvais que les autres.
Et le charbon ?
C'est pas sérieux. Le charbon, oui, c'est un problème. Et en particulier, la mine à ciel ouvert que les Allemands continuent à faire fonctionner et qui pollue de la manière la plus infâme qui soit, ils devraient la fermer. Fermer cette usine parce qu'elle pollue la région parisienne, cette mine à ciel ouvert. Mais ce n'est pas vrai qu'on soit condamné, vous savez. Autrefois, on nous est le numéro. Vous allez retourner à la bougie dans les cavernes. Alors maintenant, comme tout le monde a compris que c'est pas ça le sujet de l'écologie politique, alors on nous dit de manière plus importante, oui, mais c'est ça évite d'avoir affaire au charbon. Vous ai-je parlé de rouvrir une mine de charbon ? Non. Je vous parle de mettre des éoliennes en mer. Je vous parle de l'énergie de la mer. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais je vous en parle à cet instant. Entre le chaud et le froid, on sait faire des machines qui tournent. On en a une qui fonctionne en Polynésie française. On peut utiliser les centrales thermiques. On a une centrale qui a fait l'essai. C'est la centrale de choses. Bref, nous les Français, nous savons tout faire. Alors arrêtons de regarder le bout de nos chaussures avec l'air désolé en disant « bon, on peut rien faire ». Les centrales, on ne sait pas les fermer, alors laissons-les ouvertes. On ne sait pas si elles vont fonctionner ou pas, alors on les répare. Tout ça est absurde. Il faut changer de mode de fonctionnement.
Merci Sandy Dauphin. La parole à Thomas Legrand qui souhaitait vous interroger sur un concept que vous défendez, Jean-Luc Mélenchon, celui de créolisation.
Oui, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Je voulais revenir avec vous sur la notion de créolisation que vous empruntez au poète Édouard Glissant, notion intéressante parce qu'elle nous sort enfin du débat simpliste et polarisé entre universaliste et différentialiste. Alors, Édouard Glissant disait que c'est une façon de se transformer sans se perdre. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous définir la créolisation ?
Merci Monsieur Legrand de m'interroger sur ce sujet parce que je crois que c'est le devoir de ceux qui aspirent à diriger ce pays que d'essayer de tracer des perspectives dans lesquelles tout le monde puisse se retrouver. La créolisation n'est au programme de personne et pas dans le mien. C'est pas un programme, la créolisation, c'est une réalité. C'est un peu comme si j'avais mis le métissage. Bon, je n'ai pas mis, je parle pas de métissage, mais le métissage, c'est des gens qui s'aiment et qui ont des enfants ensemble. Bon, ben ça, vous n'y pouvez rien, il n'y a aucun règlement qui l'interdira jamais. Ça peut donc pas être dans un programme. La créolisation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que des cultures s'interpénètrent et produisent quelque chose, dit le poète, d'inattendu. Dans quelle personne domine personne ? Quelque chose plaît à tout le monde et ça crée culture. Alors, ça, c'est l'aspect sympathique et simple qui permet de vous dire l'universel est notre objectif. Personnellement, je suis un universaliste. L'universalité des droits, puisque nous sommes semblables par nos besoins, nous sommes égaux en droit, dans nos droits, à accéder à ces besoins, d'accord ? Mais entre l'universel et ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des obstacles, notamment certaines différences. La créolisation est ce qui nous permet, dans la vie concrète, de surmonter ces différences. Alors, voyez-vous, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire du peuple français, c'est que c'est le grand peuple de la créolisation. Pourquoi ? C'est le seul, sous la Troisième République, qui met dans son histoire officielle, qui s'appelle Gallo-Romain. Personne n'a osé faire un truc pareil en Europe, à part nous. Et on a raison, parce que nous sommes la civilisation sur cette terre-là, sur cet ensemble, et gallo-romaine. Et je pourrais compléter en disant, lorsque le français a été décrété langue du royaume, alors qu'il y avait bien d'autres langues, le provençal, l'occitan, le breton, le basque, bien le corse, des langues qui étaient parlées. On décrète que c'est ça notre langue, et que font aussitôt les poètes de cour ? Ils pompent, vous qui êtes propre de lettres, hein, ils pompent, il n'y a pas d'autre mot, tout ce qu'il y avait chez les latins. Oui. Et ça s'appelle, il n'y a que les français pour faire ça, ce processus au XVIe siècle s'appelle innutrition. Ça veut dire tout simplement se créoliser. Et je termine d'un dernier exemple, c'est le grand événement de la créolisation dans les territoires d'esclavage. Parce que les gens qui étaient amenés là parlaient 10-20 langues différentes, ils avaient des métiers différents, ils arrivaient d'Afrique. Et c'est parce qu'ils ont créé la langue créole qu'ils ont pu rester humanité. C'est-à-dire faire un groupe humain avec des règles communes, des mœurs communes, des musiques communes.
Est-ce que cette notion de créolisation est une réponse théorique à la crise identitaire que certains ont perçue ? Parce que finalement, on décrit beaucoup la France plutôt comme en état d'archipélisation, de morcellisation. Et finalement, votre idée de créolisation, celle d'Édouard Glissant, peut paraître un peu effrayante, un peu submergente pour notre identité.
Non, Jean-Luc Mélenchon.
Certains vont le dire.
Oui, je le comprends, vous avez raison, M. Thomas Legrand, et certains ne se privent pas de le dire.
C'est le thème dominant de la campagne, pour l'instant.
Non, c'est le thème que quelques-uns ont décidé qu'était un thème dominant. C'est un thème qui n'a à peu près aucun intérêt, parce qu'il est insoluble. La question de l'identité est, par définition, quelque chose qui ne se laissera jamais cerner. Et je vous mets au défi de décrire ce qu'est l'identité dans français, autrement que dans les droits qui sont proclamés par liberté, égalité, fraternité.
Justement, c'est une identité politique. Alors, dans l'idée de créolisation, on peut se dire que des influences étrangères politiques pourraient venir nous submerger.
Monsieur,
alors,
c'est pour ça que je vous dis que c'est la lutte entre l'obsessionnel et le réel. Allez dans n'importe quelle rue de Paris ou n'importe quelle rue de province et vous verrez partout des pancartes en anglais. La créolisation du monde, elle est en cours. Vous regardez tous les mêmes séries. Alors peut-être pas dans la même langue, mais c'est les mêmes lieux, c'est les mêmes vêtements, c'est les mêmes répartis.
Et c'est pas l'uniformisation, ça ?
Non, ça c'est la créolisation. Parce que non, ça se mélange. Si, ça dépend ce que vous regardez. Si vous regardez que les séries américaines, vous verrez ça. Personnellement, je regarde aussi les séries turques et les séries argentines. Bon, ben, je me créolise à ma manière. Je regarde des manières de faire, des réponses. Bref, je produis de l'inattendu, comme dirait Édouard Glissant. Donc, moi, ce que je porte comme discours, c'est celui de se dire « arrêtez d'avoir peur de tout ». Regardez la vie dans sa beauté, dans sa splendeur, dans son développement. En 1950, un Français sur 10 avait un grand-père étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Par conséquent, le mélange de nos populations produit quelque chose. Ce n'est pas vrai que les uns sont en train d'écraser les autres. Nous sommes en train de produire quelque chose ensemble. Souvent, je prends comme blague et comme repère la cuisine, parce que je trouve que c'est ce qui unifie le plus vite les gens. Vous savez qu'être dans n'importe quel pays du monde, de quoi on parle, ce qu'on va manger, ce qu'on a mangé, ce qu'on va manger. Bon, eh bien, la cuisine, quand je dis que le couscous est le plat préféré des Français, c'est un pied de nez que je fais à M. Zemmour, ça va de soi. Mais je pourrais dire qu'on est les plus gros mangeurs de pizza, mais quel est le jeune aujourd'hui qui renonce aux rythmes africains, aux rythmes créoles, aux rythmes caribéens ? Qui ? Personne, nulle part. Le monde dont rêvent M. Zemmour et quelques autres, un monde fou, enfermé, réduit, rabougri. La puissance de la France, c'est d'être justement une capacité de création, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son histoire profonde. Telle est la France, en tout cas, celle que moi je prétends représenter.
Merci Thomas. La parole maintenant sur les questions internationales à Pierre Aski. Pierre.
Bonjour Monsieur Mélenchon. Une partie de la gauche, vous le savez, a de sérieuses réserves sur votre politique étrangère qui lui apparaît complaisante vis-à-vis de pouvoirs autoritaires au Venezuela
mais non,
hier.
Mais je ne peux pas accepter ça.
Ou en Russie aujourd'hui.
De quelle partie de la gauche et de quelle complaisance parlez-vous ?
Vous avez eu des polémiques à plusieurs reprises avec Jadot, avec
donc,
l'UPS.
Comme, non,
mais
non.
Je peux terminer ma question ?
Alors, oui, voilà. Mais non, mais attendez, commencez déjà par dire des choses qui sont, pas des choses qui ne sont pas. Je n'ai aucune complaisance avec aucun régime autoritaire et personne ne m'en a accusé à gauche.
Excusez-moi, le Venezuela a été quand même un moment fort de débat entre vous
avec
et
la
une
gauche.
Partie de la gauche. Mais bien sûr.
Ah non, ben vous
ah bon, devez y a vous pas, tromper. Il n'y a pas une partie de la gauche qui considère
avec le PS.
Que le Venezuela est un pays qui a un pouvoir autoritaire.
Bon. C'est comme vous voulez. Bon.
Sur le fond, sur la Russie.
Non, mais vous me posez des questions, mais vous commencez pas par des insinuations, c'est ça que
c'est
je veux dire.
C'est pas des insinuations.
Oui,
c'est,
d'accord.
Écoutez,
oui.
Franchement, c'est l'histoire.
Allez. Mais non, c'est pas l'histoire.
Je voulais vous interroger sur...
Vous avez eu une polémique avec moi quand vous dirigiez le journal Libération et que vous avez publié le soi-disant credo antisémite
s'il vous plaît,
de Chavez.
Je voulais vous interroger aujourd'hui.
Vous avez eu une polémique avec moi.
Alors avançons. Avancez dans votre
interroger.
Question, Pierre.
Vous êtes obligé de reculer parce que vous avez publié une citation truquée.
Écoutez, c'est pas l'objet, s'il vous plaît.
Ah ouais, bah alors
je voulais vous interroger.
Je croyais que c'était l'objet. J'ai eu des disputes, paraît-il, avec la gauche. Bah, la gauche, c'était vous. Vous racontiez un truc qui était faux.
Je voulais vous interroger aujourd'hui sur ce qui se passe autour de l'Ukraine, avec les exigences de garantie de sécurité de Vladimir Poutine, qui s'accompagnent d'une menace militaire. Si vous étiez président, est-ce que vous accepteriez ces exigences de Poutine ?
Bien sûr.
Jean-Luc Mélenchon.
Bien sûr.
Oui ?
La Russie est un partenaire. Je ne suis pas d'accord pour qu'on en fasse un ennemi. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait trahi la parole qu'on avait donnée aux dirigeants russes lorsqu'on leur avait dit que la fin du pacte de Varsovie et du bloc soviétique ne conduirait pas à la présence de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie.
Vous savez, cette question est contestée.
Écoutez,
il n'y a pas de traité, il n'y a pas de trace écrite.
Alors, très bien. Il n'y a pas de traité, mais la parole a été donnée à ce moment-là et jamais les soviétiques n'auraient accepté sans ça. Mais écoutez, laissez-moi quand même vous répondre. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un empire s'effondre sans qu'il y ait une discussion sur la façon avec laquelle se répartit la suite. Tous les autres empires, empire austro-hongrois, empire ottoman, même l'empire colonial français ou l'empire colonial anglais, tous ont eu un terme dans des conditions plus ou moins négociées après des défaites militaires plus ou moins importantes, dans certains cas. C'est la première fois qu'un empire qui organisait le tiers de l'humanité à l'époque s'effondre sans qu'on ait jamais discuté de qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on s'y prend, comment on répartit. Nous avons fait entrer 10 pays d'un coup dans l'OTAN en les acceptant dans l'Union européenne. Cela a été ressenti comme une menace par la Russie. Dans le cas de l'Ukraine en particulier, qui est un État indépendant, nous avons le devoir de ne pas faire en sorte que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, parce que sinon, il est normal que les Russes disent « nous sentons menacés », surtout quand on a installé des batteries antimissiles qui menacent 75% de leur système de défense en Pologne. La règle politique, si j'étais le président de la République, ça serait la désescalade. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, les Russes ? Dites-nous-le. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et discutons de ça. Ensuite, nous aurons inéluctablement, le problème ne sera pas sur ce qu'ils veulent ou ce que nous on veut. Nous, je veux dire les autres, les riverains, qui avons un rapport avec les Russes. La question sera de qu'est-ce qu'on fait dans un certain nombre de territoires qui sont des enclaves dont personne ne sait comment les traiter. Alors, ce qui est dans le cadre de l'Ukraine doit rester ukrainien. Personnellement, je suis pour qu'on ne touche pas aux frontières. J'étais contre au Kosovo, et je ne vois pas pourquoi je serais pour en Ukraine. Voilà la raison pour laquelle...
Y compris la Crimée ?
La Crimée, c'est une autre paire de manches. On peut parfaitement organiser, sous contrôle international, si les Russes en étaient d'accord, et si c'est une des conditions de la paix, un référendum qui permette de savoir ce que veulent les habitants de la Crimée. On l'a fait pour le Kosovo, et on n'a rien demandé à personne. Et on a fracturé un État qui était la Serbie en créant à l'intérieur un nouvel État, le Kosovo. Donc on peut penser que c'est une méthode pacifique, la désescalade. Je suis contre la nouvelle guerre froide.
Donc quand vous dites que vous accepteriez les conditions que demande Poutine aujourd'hui, vous êtes d'accord avec l'idée d'une sphère d'influence de la Russie sur l'Ukraine, la Géorgie, donc des pays qui sont souverains ?
Non, mais la Géorgie est déjà dans l'OTAN.
Non.
Elle n'y est pas ?
Non.
Donc vous trouvez que c'est bien, non ?
C'est très bien. La France s'y est opposée en 2008 au sommet de Bucarest.
Voilà. Donc nous sommes contre le fait que la Géorgie soit dans l'OTAN. Nous sommes contre que l'Ukraine soit dans l'OTAN.
C'est pas la Géorgie ou l'Ukraine de choisir.
Bah, elles ont choisi d'entrer dans l'OTAN. Nous, on n'a rien à dire. Le problème,
l'indétermination des peuples, la zone d'influence.
Non, je suis pas. Écoutez, je suis pour qu'on considère les réalités, pas les principes abstraits avec lesquels on se met en guerre avec le monde entier. Les principes concrets, que veulent-ils les uns les autres? Quelles sont les conditions de la sécurité de la Russie? Moi, je pourrais vous parler des conditions de la sécurité de la France. Je pensais que vous m'interrogeriez plutôt sur ce sujet. En particulier, compte tenu des menaces particulières qui pèsent sur elle, dès lors qu'elle veut être indépendante. Moi, je suis pour sortir de l'OTAN, je voudrais quand même le rappeler.
Justement, c'était ma question suivante.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que dans le climat de tension actuel et vu la situation en Europe, vous affaibliriez la sécurité de la France de sortir de l'OTAN actuellement?
Minute, Jean-Luc Mélenchon, pour répondre.
Non, je crois que je l'améliorerai parce que je ne veux pas rentrer dans le système. Je viens de vous dire le mot clé dans mon esprit. La désescalade. Si nous sortions de l'OTAN, nous ne serons pas entraînés dans les aventures militaires des Nord-Américains, qui non seulement se déploient par rapport aux Russes, mais se déploient aussi par rapport aux Chinois, dont nous n'aurons pas eu l'occasion de causer. Quelles que soient les raisons que nous avons de ne pas sympathiser avec le régime chinois, je suppose que c'est le cas ici dans cette salle, nous avons toutes les raisons aussi de dire qu'une guerre froide avec eux ne nous mène nulle part. Donc là aussi, il faut discuter de savoir quels sont les risques, les menaces, que demande chacun. Et ça, monsieur Aski, vous verrez que cette question des frontières et de leur préservation est posée à tout le monde. Et nous aussi à l'Union européenne, pas par rapport aux Russes, c'est pas eux la menace. La menace, elle est en nous-mêmes. La frontière avec la Catalogne. Si la Catalogne devenait indépendante, où est la frontière? Quels sont les droits des Catalans? L'Union européenne a répondu qu'ils n'en voulaient pas. Si l'Écosse devient indépendante, quelle est sa position par rapport au reste de l'Europe? Que se passe-t-il si la Pologne réclame un bout de l'Ukraine ou la Hongrie réclame un bout de l'Ukraine, comme c'est le cas? Nous avons donc intérêt à une conférence des frontières avant que les crises arrivent, plutôt qu'au moment où elles s'y trouvent.
Merci Pierre Aski pour cet ensemble de questions et ce dialogue. Le point final, on l'avait promis, c'est avec vous Augustin Trapenard, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors quelles questions avez-vous envie de poser à Jean-Luc Mélenchon?
Oui, bonjour Jean-Luc Mélenchon, une dernière question culturelle, une question qui porte sur le monde de l'édition française que vous connaissez puisque vous êtes aussi auteur depuis longtemps, et cette question elle concerne l'inquiétude grandissante de tous les acteurs du livre, éditeurs, auteurs, libraires mais aussi lecteurs, devant la concentration et la domination de certains grands groupes, pour ne pas dire leur monopole sur l'édition française. Ouais. Quel regard est-ce que vous portez sur cette évolution qui est une forme d'emprise, et comment est-ce que vous y répondriez, vous?
Moi, j'y réponds en empêchant les monopoles de se constituer, en mettant une limite au nombre de maisons d'édition qu'on est en droit de posséder, et le même raisonnement vaudra pour l'audiovisuel, ouais, parce que là aussi, les phénomènes de concentration sont sans précédent. Notre génération a vu en 10 ans quelque chose se produire qu'on n'avait jamais vu avant, de concentration. Donc, il y aura une loi anti-monopole qui permettra... La culture ne peut vivre que dans la diversité. le monopole est incompatible avec l'idée même de la créativité culturelle, de sa liberté, de son foisonnement. Mmh. Je voudrais dire quand même un mot. J'aurais aimé qu'on puisse parler sur la politique internationale plus longtemps, parce que c'est là la compétence numéro un d'un président de la République. Je suis pour une France altermondialiste, libérée de son alliance militaire avec les Nord-Américains. Je suis pour que la puissance intellectuelle, la puissance de la France, se manifeste par son rayonnement intellectuel et culturel. Mmh. Parce qu'elle ferait une université de l'espace, parce qu'elle ferait une université de la mer, ouverte à tous les peuples francophones. Voilà quelle ambition j'ai pour ma patrie, plutôt que l'alignement ridicule derrière le char des Nord-Américains, un jour contre les Russes, le lendemain contre les Chinois, et le surlendemain on ne sait contre qui. On n'a pas pu parler non plus de l'Afrique, c'est dommage.
Mais on le fera et on vous réinvitera, Jean-Luc Mélenchon, avec
plaisir. Vous savez, j'ai proposé au président de la République un débat, il n'en veut pas. Personne ne veut débattre avec moi de politique internationale, je ne comprends pas pourquoi.
Eh ben, on va essayer de l'organiser, ce débat. On a quelques toutes petites questions de fin. Questions
très courtes.
Très courtes, réponses très courtes.
Qui feriez-vous entrer au Panthéon, Jean-Luc Mélenchon, si vous étiez président?
Moi, pourquoi je vais commencer à faire entrer des gens au Panthéon?
Qui vous auriez envie? Des petites questions courtes.
J'en sais rien, j'ai pas réfléchi. Si vous m'aviez dit avant, j'aurais réfléchi, mais je trouve que c'est un pouvoir incroyable. On demande à un type, alors qui vous voulez faire entrer au Panthéon? Je sais pas, moi, quelle idée.
Ça fait partie des pouvoirs présidentiels.
Oui, mais on vous amène encore heureux qu'on vous amène des listes, puis j'espère bien qu'on se serait débarrassé d'une tâche pareille.
Liberté, égalité, fraternité, lequel des trois vous choisissez?
Ça marche ensemble. Robespierre, qui a proposé cette devise, au début, c'était aux gardes parisiens, hein. Les trois marchent ensemble. Si vous essayez de les décrocher, ça fonctionne plus. Alors après, il y a des rapports un peu compliqués entre l'un et l'autre des fois, hein, parce que la totale liberté s'oppose des fois à la fraternité, ou une égalité virulente pourrait s'opposer à la liberté. Et la liberté du commerce a toujours été un ennemi de l'égalité.
Vous êtes plutôt Victor Hugo ou Louis Ferdinand Céline ?
Alors Victor Hugo, sans l'ombre d'un doute. Pour moi, je ne pardonne pas. Pardon, c'est un point de vue qui n'est plus littéraire. Hein. Je ne pardonne pas. Céline est un traître à la patrie et un antisémite. Je ne pardonne pas. Quoi qu'il ait écrit, quelle que soit sa splendeur, je ne pardonne pas. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me disent « t'es fou de dire ça, il a écrit des pages magnifiques ». Peut-être, mais il a écrit des pages tellement horribles que je lui pardonne pas.
Et la dernière, croyez-vous aux forces de l'esprit ?
Oui.
Merci Jean-Luc Mélenchon.
Merci Jean-Luc Mélenchon
d'avoir été à notre micro ce matin, 9h31, une petite minute de retard.
Trop beau pour les forces de l'esprit à la fin.
Mais c'est à vous, Augustin Trapenard.